Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David. Baby, I'm
amazed the way you love me all the time. C'était il y a 50 ans. Les Beatles se séparaient officiellement le 10 avril, mais c'est le 17 que la rupture était définitivement consommée avec la sortie du premier album solo de Paul McCartney, d'où est extraite cette chanson, Maybe I'm Amazed, qui est une déclaration d'amour à Linda. Nous sommes en compagnie de Pierre Mikhailov, musicien, journaliste et écrivain, auteur des Beatles pour les nuls chez First. Pierre Mikhailov, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Comment expliquer le processus de séparation des Beatles? On dit qu'ils se sont séparés le 10 avril quand Paul McCartney annonce qu'ils n'enregistreront plus ensemble. Et Paul McCartney, sur son premier album solo le 17, il n'a pas écrit, enregistré, mixé les 13 chansons de l'album en une semaine. Le coup était prémédité?
Oui, absolument. Bah, en fait, il n'a fait qu'officialiser une situation que les proches du groupe avaient déjà senti, tous les gens qui travaillaient autour du groupe sentaient qu'il y avait de l'eau dans le gaz depuis longtemps. On peut dire que depuis un an, le groupe ne fonctionnait plus vraiment. Disons que c'est, pendant 8 ans, les quatre membres des Beatles ont vécu quasiment les uns sur les autres. Au départ, en tournant sans relâche, en tournant des films, en faisant des concerts, en enregistrant des disques pratiquement sans interruption. Donc il y a cette lassitude d'être tout le temps ensemble. Et puis il y a aussi le fait de passer tout simplement de l'adolescence à l'âge adulte. Donc l'adolescence, on est quatre copains et on va conquérir le monde. Et puis peu à peu, on a envie de prendre de l'indépendance. Et puis les caractères s'affirment et on s'aperçoit qu'on ne va plus dans la même direction. Donc chacun se sent frustré au sein du groupe. Autant John que Paul que George, ils ont tous des envies de création qui sont de plus en plus différentes. Et puis surtout, il y a les deux rencontres que font les deux rencontres amoureuses que font Paul et John. John qui tombe éperdument amoureux d'une artiste contemporaine japonaise qui s'appelle Yoko Ono, et puis Paul qui tombe amoureux de Linda Hetzman. Et alors on dit beaucoup que ces deux compagnes des Beatles sont pour beaucoup dans la séparation du groupe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, chacun a plus envie d'une vie de couple et d'être avec sa femme que d'être avec John, Paul, Ringo et George. Et il y a toutes ces raisons donc qui conduisent à la séparation du groupe qui couvre depuis longtemps en fait.
Alors justement, ironie de l'histoire, on est 10 ans, presque jour pour jour, du premier concert réunissant Lennon et McCartney, puisque c'était le 23 avril 1960. Ils avaient donné un concert au Fox and Hounds Pubs à Caversham, dans le Berkshire, sous le nom de The Nerd Twins.
Oui, écoutez, c'est l'histoire d'une belle amitié, et c'est quelque part, on a du mal à analyser comment des gens qui ont été aussi proches ont pu s'éloigner autant, parce que il y a eu très peu de contacts finalement entre Paul et John après cette séparation, alors qu'ils étaient quasiment comme des frères, et c'est assez incompréhensible cette... Ce qui a couvé cette espèce de on peut pas parler de haine, on n'irait pas jusque là, mais cette espèce de désintérêt l'un pour l'autre, surtout de la part de John qui s'est beaucoup beaucoup isolé, alors que Paul a essayé de faire des gestes, de revenir un peu vers lui, d'aller le voir à New York, mais à chaque fois il a été accueilli assez froidement. Et c'est vrai que c'est assez triste de voir cette amitié comme ça qui se brise.
Alors, justement, Pierre Mikhailov, je rappelle que vous avez écrit les Beatles pour les nuls. 3 semaines après la sortie de l'album solo de McCartney, sort le 8 mai le dernier album des Beatles, Let It Be, dont l'enregistrement a commencé le 22 janvier 69 et s'est terminé le 1er avril 70, donc 3 semaines avant. Cet album devait-il être le dernier dès sa conception ou ses premiers enregistrements?
Non, alors ça, c'est un album qui a été très compliqué à achever. En fait, l'album...
Ah oui, ils ont mis près d'un an et demi.
Exactement. Il savait pas quoi en faire de ce disque. En fait, c'était normalement la bande-son d'un film. Le film aussi a été considéré comme un échec par les Beatles. Le film s'appelle Let It Be. Les Beatles ne sont même pas allés à la première parce qu'ils considéraient que ce film ne les représentait pas vraiment. Et en fait, le vrai dernier disque des Beatles, c'est Abbey Road, mais qui sortira paradoxalement avant Let It Be. Donc ce disque, il savait pas quoi en faire. Il avait été mixé une première fois. Ils ont ensuite donné les bandes au producteur américain Phil Spector, qui a remixé tout ça en rajoutant sa patte, en rajoutant des violons. Paul McCartney a toujours détesté le mixage de Phil Spector. D'ailleurs, il ressortira dans les années 2000 un album appelé Let It Be Naked, Let It Be Nu, c'est-à-dire sans les arrangements de Phil Spector. Et c'est sur ce disque que certains considèrent un peu raté qu'on va quitter les Beatles. Mais à ce moment-là, quand le disque sort, effectivement, le groupe n'existe plus réellement.
Mais alors, justement, certains disent que les Beatles, ça se résume à McCartney. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, absolument pas, mon cher ami.
Ah ben, certaines personnes le disent.
Alors ça, ce sont des fans ultimes de Paul qui disent ça. Mais non, les Beatles, c'est avant tout un quatuor. Et puis, on va dire que c'est un binôme créatif qui est mené par John et Paul. Mais en même temps, sans la patte de George, ses arrangements de guitare, et sans le jeu de batterie très particulier, très personnel de Ringo, on n'aurait pas les Beatles. Si John et Paul n'avaient pas rencontré Ringo et George, je ne pense pas qu'ils auraient fait la même carrière. Parce qu'il y a aussi le côté humain, au-delà des instrumentistes, il y a le côté humain, et chaque Beatles avait sa personnalité, son humour, et ça c'était très important dans la recette du groupe.
Mais alors justement, ils ont fait pas mal d'albums, les Beatles quand même, pour vous quel est le meilleur? Alors là il y a aussi duel, débat entre les gens.
Effectivement, mais moi ça, tout simplement ça dépend des jours, et je conseille à tout le monde.
Un jour vous êtes plutôt She Loves You Yeah, et un autre vous êtes plutôt Let It Be.
Exactement. Et moi, je conseillerais à tout le monde d'écouter un album qui s'appelle Beatles for Sale, qui est leur quatrième album, et où on sent déjà la direction qu'ils vont prendre d'une musique plus sophistiquée. Mais sinon, l'album intouchable, c'est évidemment Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
C'est ce que disent les gens en général.
C'est intouchable, ça, il n'y a rien à retirer. Après, il y a le double album blanc aussi, alors là, qui est vraiment foisonnant, il y a à boire et à manger. Il y a de très très belles choses dessus, mais très honnêtement, de vous à moi, les Beatles n'ont pas enregistré grand-chose qui ne soit pas de grande qualité.
Ah oui, mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un vrai changement au départ? Leur premier tube, c'était Love Me Do, vous vous rappelez, avec l'harmonica, etc. Et après, 10 ans plus tard, on est vraiment dans des trucs beaucoup plus psychédéliques. Il n'y a pas un style Beatles, il y a plusieurs styles Beatles.
Mais ce qui est fabuleux, c'est que tout ça se déroule en quelques années. On n'imagine pas aujourd'hui que les Beatles sortent 2 albums par an, et qu'entre entre 2 albums qui se succèdent, il y a une révolution musicale, et à chaque fois, ils vont passer du rock assez primaire, assez simple, au rock psychédélique, au blues. Parfois, ils vont dévier vers le hard rock, ils vont dévier vers la musique classique, ils vont dans tous les sens. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui la créativité de ces 4 garçons qui au départ sont complètement autodidactes, mais qui d'album en album réinventent la musique populaire.
Mais justement, en parlant de musique populaire, John Lennon avait une phrase qu'on peut qualifier de géniale si on est comme moi, fan d'Elvis et fan des Beatles. Il avait dit « Sans Elvis Presley, les Beatles n'auraient jamais vu le jour ».
Oui, c'est vrai. Mais c'est des fans ils ont grandi avec ce rock américain, avec Elvis, avec Little Richard. Ils ont grandi avec tout ça, et c'est vrai que c'est Elvis qui ouvre la voie, et les Beatles s'engouffrent dans la brèche, bien sûr. Mais après, on peut dire que les Beatles vont faire beaucoup d'ombre à Elvis.
Ça, c'est sûr. Alors justement, vous avez dit clairement que les Beatles, contrairement à ce qu'affirmaient certains, ça ne se résumait pas à McCartney. Par contre, si on regarde les chansons, elles ont toutes été composées, enfin à 80%, Lennon-McCartney, qui faisait quoi? Parce que les auditeurs le savent peut-être pas dans le duo Lennon-McCartney.
Mmh. En fait, c'est très simple. Pour reconnaître une chanson écrite par John ou par Paul, c'est celui qui chante la voix principale est l'auteur de la chanson. Donc quand vous entendez la voix de John, c'est une chanson de John. Alors au départ, ils composent vraiment ensemble. Comme ils sont beaucoup en tournée, ils composent ensemble dans les hôtels. Paul et John sont face à face sur une table et ils mélangent leurs idées. Et puis petit à petit, quand ils vont arrêter de tourner, ils vont davantage s'isoler chez eux et composer chez eux. Et à partir d'un certain moment, parfois Paul aura un problème avec un refrain, il fera écouter à John une cassette en lui disant « si tu peux me trouver un refrain là-dessus ». Et John fera la même chose. Donc ils s'aideront toujours par la suite un petit peu à composer, à rajouter des éléments dans les chansons, mais ils composeront plus ensemble dans la même pièce. Ce sera de plus en plus rare, et à la fin, ils arriveront chacun avec leur chanson, et ils enregistreront même plus ensemble en studio. Quand Paul enregistre sa chanson, à la fin, John n'est pas là, et quand John enregistre sa chanson avec George et Ringo, Paul ne vient pas. Enfin, à la fin, ce sera vraiment aussi tendu que ça.
Ah oui, justement. Mais alors, on va parler des deux Beatles de l'ombre, George et Ringo. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le groupe? Parce qu'il y avait quand même bien deux leaders, Lennon et McCartney.
Bien sûr, bah John, en plus, George était plus jeune, donc il était complètement écrasé à tous les niveaux par ses aînés. Alors, Ringo, en fait, on le sait moins, mais en même temps que Paul, il enregistre son premier album solo. Et Ringo, il enregistre un album qui s'appelle un album de reprise de chansons qu'il écoutait dans son enfance des années 30, qui s'appelle Sentimental Journey. Un album qui marchera pas du tout, mais il l'enregistre en même temps que celui de Paul. Et George, alors George était complètement frustré parce qu'effectivement, il avait le droit à uniquement une ou deux chansons par album et jamais les façades d'un 45 tours. Il était vraiment relégué dans l'ombre. Et alors, il va surprendre tout le monde en sortant à la fin des Beatles un triple album carrément qui va contenir plein de tubes. Et là, il va vraiment révéler sa créativité et il va pouvoir enfin enregistrer toutes les chansons qu'il accumulait depuis des années et qu'il gardait dans un tiroir. Et cet album qui s'appelle All Things Must Pass contient un tube énorme qui s'appelle My Sweet Lord, qui va être numéro un partout dans le monde. Et là, George va enfin pouvoir un petit peu recueillir un peu de lumière des projecteurs.
Dernière question, Pierre Mikhaïlov, avant de s'écouter un petit morceau des Beatles pour conclure.
Oui.
Les Beatles sont-ils le plus grand groupe de l'histoire et est-ce que dans 50 ans, tout le monde connaîtra encore leurs chansons, comme 5 ans, donc, c'est-à-dire un siècle après leur séparation, comme aujourd'hui, 50 ans après?
Alors, plus grand groupe de l'histoire, les fans des Rolling Stones vous diront non, mais pour répondre à la, pour répondre, ou les fans d'Elvis Presley, mais pour répondre à votre question, je pense qu'on écoutera toujours les Beatles dans 50 ans. Maintenant, ils font partie du patrimoine, comme Beethoven, comme Mozart, comme Jean-Sébastien Bach. Je pense que la musique des Beatles, d'ailleurs, elle est jouée aujourd'hui par des tribute bands, par des groupes qui leur rendent hommage, qui jouent à la note près les disques des Beatles. Et je pense que maintenant, les Beatles, c'est de la musique classique, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine culturel mondial.
Eh bien, justement, merci beaucoup, Pierre Mikhaïlov, qu'il en soit ainsi. On est obligé, vous avez écrit les Beatles pour les nuls, on est obligé de s'écouter un morceau de Let It Be.
Obligé.
Les Beatles, Let It Be. Dans la prochaine demi-heure, on aura évidemment le livre du dimanche avec Antoine Sénang. Que sont nos amis devenus? La sélection musique de Bruno Dubois et Mieux dans ma vie avec Cécile Tardy. Restez bien avec nous pour le Grand Matin Weekend.